envie d'Italie. En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Davvero molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder de cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadè. Strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal vico ammirate la testa, via volare.
Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur 106.3 FM. Je souhaite la bienvenue tout de suite à ma collègue Élise Gros qui va co-animer l'émission avec moi et je la laisse présenter le thème de ce soir.
Alors ce soir, Envie d'Italie revient sur Lampedusa, sur le drame de Lampedusa survenu le 3 octobre dernier. Ce naufrage qui a fait la une des médias. Alors Lampedusa, la plus grande des îles Pélages au sud de la Sicile, c'est un confetti en pleine mer qui abrite 6000 habitants, le port italien le plus proche de la Libye et de la Tunisie. C'est une frontière de l'Italie, une frontière de l'Europe, c'est aussi une des portes d'entrée du continent pour les migrants venus d'Afrique et d'Orient. Le 3 octobre dernier, de nouveau, une embarcation de migrants faisait naufrage au large de la petite île et plus de 360 personnes y ont trouvé la mort. La grande majorité des passagers fuyaient l'Érythrée et sa dictature sanguinaire. Après le drame, on a vu des visites de personnalités politiques italiennes et européennes se multiplier sur l'île, jusqu'au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le chef du gouvernement italien, Enrico Letta, accueillis par des huées par les habitants de Lampedusa. Car tous ceux-ci n'en peuvent plus d'entendre les discours de compassion, les promesses solennelles d'aide. Ce sont eux qui sont en première ligne, menacés lorsqu'ils sont solidaires du désespoir, de complicité à l'immigration clandestine par la loi Bossi-Fini sur laquelle nous reviendrons ce soir. Et tous les habitants de Lampedusa ainsi que tous les acteurs en première ligne de ces événements demandent que les choses changent. On estime à 25 000 le nombre de réfugiés qui se sont noyés au cours des 20 dernières années en tentant d'accoster en Europe, faisant de la Méditerranée un véritable cimetière du désespoir. Et alors l'Europe ne peut plus se contenter de se suréquiper pour protéger ses avant-postes de sa forteresse, de créer de nouveaux centres de rétention, des camps d'accueil en permanence débordés. La mission Frontex, sur laquelle nous reviendrons aussi ce soir avec nos invités, l'agence de surveillance des frontières européennes, mène une véritable chasse en mer aux migrants et ne cesse d'interroger quant à ses moyens et ses fins. Combien de drames faudra-t-il pour que l'Europe commence enfin à changer de politique migratoire et toutes celles qui ont été mises en place depuis la fin des années 90 et trouver une politique plus humaine? Je laisse Véronica Colalti présenter nos invités de ce soir qui sont nombreux.
Alors merci Élise pour cette introduction. Donc je vais vous présenter les invités de ce soir. Donc je vais présenter Alessandra Capodanno du réseau Euro-Africain Migro Europe qui regroupe une quarantaine d'associations européennes, africaines et médio-orientales travaillant sur l'enfermement et les droits des migrants aux frontières. Bonsoir Alessandra.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et merci d'être là. Et on accueille aussi Olivier Favier, historien de formation, il est traducteur de l'italien, pigiste, et il anime le site dormirajamais.org qu'il a créé en 2010. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et encore, les documentaristes Laetitia Toura et Hélène Cruzilla, qui depuis 2008 recueillent des témoignages au Maroc et en Tunisie sur les morts aux frontières. Leur film Les Messagers devrait sortir très prochainement en salle. Donc bonsoir Hélène, bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. On accueille aussi Martine Abba, journaliste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Juliette Gerbrand, qui est un journaliste à RFI, que nous avons le plaisir d'avoir au téléphone. On écoute tout de suite le récit de son arrivée à Lampedusa, le lendemain du naufrage.
Ce qui frappe d'abord à Lampedusa, en effet, c'est que, donc, on parlait des pêcheurs, mais c'est la vie de tous les habitants qui a été bouleversée sur cette île-là. Sans parler de toute la Méditerranée, disons que déjà sur l'île, c'est un morceau d'Afrique et c'est très frappant quand on y va, parce que d'abord c'est assez désertique comme terrain. C'est des petites maisons au toit plat, des maisons carrées, jaunes, ocre. C'est plus proche de la Tunisie que de l'Italie. Et c'est très... On ne peut pas dire pauvre parce que c'est une île touristique et qu'on est quand même en Italie, mais c'est quand même une île très isolée avec très peu de moyens, il y a très peu d'infrastructures. 70% des revenus, c'est le tourisme. Alors bon, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des boutiques pour les touristes, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'hôpital. C'est une île qui est complètement enclavée et les gens se sentent très isolés. Les gens me disaient, mais c'est pas la porte d'Europe, c'est pas la porte d'Italie, c'est juste Lampedusa. Et on peut pas être, nous, la porte d'Europe alors qu'on est ce petit caillou avec 6000 personnes dessus. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, quelle que soit leur activité, leurs conditions, etc., militants, pas militants, parce qu'il y a des militants associatifs, mais tout le monde, toute la population, à chaque fois, c'est ça, c'est nous, on aide, mais personne ne nous aide. Voilà, ça se résume à ça. C'est-à-dire, nous, on aide tout le temps, mais nous, personne ne nous aide jamais. Quand on leur parle de Frontex, ça les fait sourire, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais enfin, il y a des radars, ça coûte cher, à quoi ça sert? S'il y a des radars, s'il y a des bateaux, comment ça se fait qu'ils n'aient pas vu ce pauvre navire qui était, enfin, ce pauvre bateau qui était à 1 mille des côtes, quoi, qui était vraiment tout près? Ils ne comprennent pas ça, à juste titre d'ailleurs. Donc voilà, ils se sentent en effet très très loin des politiques et italiennes et européennes.
Donc on écoutait Juliette Gerbrand au lendemain de son arrivée à Lampedusa, qui relatait. Son arrivée sur l'île. Et je me tourne vers Alessandra Capodanno, qui est du réseau Migre Europe, pour évoquer, suite à ce témoignage, un petit peu une situation plus globale de l'immigration en Méditerranée et ce que tu voudrais dire à propos de Lampedusa, mais plus généralement des difficultés rencontrées par les migrants, les routes qu'ils doivent emprunter et pourquoi ils se trouvent obligés d'emprunter des routes si périlleuses.
J'essaierai de faire de mon mieux. Le thème est vaste. En tout cas, le fait de parler de Méditerranée au moment de l'intervention qu'on vient d'écouter et de ta question nous permet de dire premièrement que malheureusement le cas du naufrage qui a eu lieu le 3 octobre est bien évidemment un cas dramatique. Spectaculaire, passez-moi le mot, est très médiatisé, mais il ne s'agit absolument pas d'un cas isolé. On recense depuis le milieu des années 90 environ 20 000 morts seulement à la frontière méditerranéenne. Mais les morts aux frontières sont beaucoup plus nombreux, beaucoup moins visibles aussi à d'autres frontières. Les drames qui ont lieu en mer ne doivent pas nous faire oublier tous les drames qui se déroulent tout au long des routes migratoires. Et donc on vient ici aux routes. Et ben les routes, ce qu'on peut constater depuis les années 90 aussi, c'est que les routes des migrants se font, que ce soit par la terre ou par la mer, de plus en plus longues et périlleuses. Et la cause des modifications des routes et du fait que les routes empruntées sont de plus en plus périlleuses, les bateaux de plus en plus petits, le coût du passage de plus en plus cher, et la cause de tout ça est le fait que la réponse de l'Union européenne et des États membres depuis une dizaine d'années est ce qu'on appelle une guerre aux migrants. Une guerre aux migrants qui a deux aspects fondamentaux. D'un côté, l'absence quasi totale de voies d'accès légales, que ce soit pour les migrants, entre guillemets, économiques ou pour les personnes en quête de protection internationale. Et en parallèle, la mise en place de mesures répressives et de contrôles qui sont de plus en plus, surtout dernièrement et surtout après ce naufrage, vendues et présentées comme des missions de sauvetage, qui ne sont pas. Par exemple, on a mentionné donc l'agence Frontex, très méconnue, donc un effet positif, si on peut utiliser ce terme, de tout le bruit que ce naufrage a fait, et le fait que pour une fois on parle de Frontex. Par contre, que ce soit dans le discours politique ou dans le discours médiatique mainstream, on va dire, on n'explique pas vraiment ce que cette agence est. L'agence a été créée en 2005 et opérationnelle depuis 2006. Et pourtant, les morts aux frontières et les morts en Méditerranée en particulier n'ont pas du tout diminué depuis, malgré des moyens très importants. On en est aujourd'hui à plus de 80 millions d'euros de budget par an. C'était 16 millions en 2006, donc c'est une augmentation absolument exponentielle, mais qui n'a pas porté des résultats en termes de sauvetage et de respect des droits aux frontières, tout simplement parce que ceux-là ne sont pas les buts de cette agence, dont le mandat est très clairement lutter contre l'immigration dite clandestine. Donc après, l'agence se reporte souvent les données concernant le nombre de sauvetages qu'elle a réalisé. Ces sauvetages sont des activités presque collatérales, si l'on veut, et un gros amalgame est fait entre les sauvetages, les interceptions en mer et les refoulements. On pourra y revenir si vous voulez.
Est-ce que tu peux déjà spécifier la différence entre refoulement et justement l'interception, ça?
Oui. Alors donc, ce qu'on a pu constater par l'analyse du travail de l'agence et des différents rapports, par des témoignages directs de migrants, etc., c'est que de plus en plus, l'agence, qui est donc une agence qui est censée coordonner l'intervention des États membres aux frontières externes de l'Union européenne, donc l'agence n'intervient pas. Mais elle coordonne et à partir de ça, toute une série de questionnements quant aux responsabilités par rapport à ce qui se passe dans le cadre d'opérations coordonnées mais pas menées par Frontex se posent. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que de plus en plus, l'agence se limite à identifier des bateaux à l'occurrence. Et après, ce qui interviennent, c'est les États membres intéressés par cette zone. Et donc, il y a, par exemple, ça, c'est donc une interception. On voit un bateau, on prévient les secours. Après, il y a là aussi des questionnements qui se posent, par exemple, par rapport au temps qui passe entre le moment où le bateau est vu. Ça peut être des avions ou des embarcations dans le cadre d'opération Frontex, et le moment où les secours sont appelés. Et la définition d'un bateau en détresse, quand est-ce qu'un bateau est en détresse, etc., etc. Un refoulement, c'est quelque chose qui est interdit par la législation internationale, et c'est quand donc des migrants sont interceptés le long de leur route, donc s'agissant de mer, donc dans la mer, et sont refoulés, donc repoussés vers le pays d'où ils viennent, qui est bien souvent n'est pas leur pays d'origine, mais un pays de transit. Et ça a été donc la politique du gouvernement italien pendant un moment, et notamment lorsque le ministre Maroni de la Ligue du Nord était ministre de l'Intérieur. Et l'Italie a par ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour avoir refoulé en haute mer des migrants provenant de Libye vers la Libye. Le traitement des migrants, spécialement d'origine subsaharienne, est absolument épouvantable.
Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu des pays d'origine, donc des migrants qui essayent de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe?
Oui. Alors, dans un premier... dans une première phase, mais encore aujourd'hui, il y a parmi les personnes qui rejoignent le territoire de l'Union européenne par la mer et par la Méditerranée, de nombreux migrants d'origine tunisienne plutôt que marocaine, par exemple, ou égyptienne. Aujourd'hui, les arrivées de migrants provenant du Corn de l'Afrique, et c'était le cas pour le naufrage du 3 octobre, donc d'Érythrée, Somalie, Éthiopie, etc., et aussi des arrivées de Syriens qui arrivaient dans un premier temps surtout d'Égypte et qui maintenant prennent la mer de plus en plus aussi directement de la Libye. Donc leur périple terrestre, si vous voulez, se fait encore plus long. Et voilà, et le départ se fait de Libye. Donc on a voilà, c'est des nationalités où clairement voilà, les personnes en quête de protection internationale sont parmi ces passagers.
Tu évoques justement des pays et des personnes qui fuient des pays en guerre, des pays des dictatures, donc des candidats à l'asile politique. Tu expliquais aussi que Migreurope mène des propositions auprès de la Commission européenne ou des différents gouvernements pour tenter de trouver des solutions en amont pour les demandeurs d'asile. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors oui, s'agissant de Migreurope, c'est une précision que je dois faire. On travaille pas vraiment sur les distinctions entre réfugiés, demandeurs d'asile, migrants économiques ou quoi que ce soit. On parle de migrants plus généralement, de droits des migrants et de droits de l'homme. Au-delà de toutes ces distinctions. En tout cas, il est intéressant de faire un parallèle entre les solutions qui ont pu être envisagées à chaud, mais aussi par la suite par les décideurs de l'Union européenne et des pays membres, et celles qui ont été proposées à plusieurs reprises et publiquement par la société civile, donc par Migreurope, mais par beaucoup d'autres, et l'écart énorme qu'il y a entre tout ça. Donc du côté des décideurs politiques, au-delà des larmes et des déclarations, on a principalement parlé donc d'augmenter les moyens de Frontex, d'accélérer la mise en place d'un système qui s'appelle Eurosur, qui est donc un système de systèmes, comme il se définit. C'est une énorme base de données de tout ce qui existe en termes de politique de contrôle de l'immigration. Et on a parlé aussi de coopération avec les pays tiers, en sachant que cette coopération est de plus en plus souvent aujourd'hui conditionnée à la coopération. Donc la coopération en matière économique et commerciale est conditionnée à la coopération en matière migratoire. Donc voilà, on coopère avec vous, on fait de l'aide au développement si vous acceptez vos ressortissants qui auraient été interceptés en situation irrégulière sur le territoire européen, mais aussi des migrants ayant transité tout simplement par vos pays. Et que dans les chiffres de cette coopération, souvent le gros lot est fait par de la formation de gardes-frontières, de gardes-côtes, du matériel de surveillance. Donc c'est ça la coopération et le développement qu'on soutient par ces politiques. Pour ce qui est par contre de ce que Migreurope et d'autres suggèrent et ont suggéré en adressant des lettres directement aux chefs d'État et de gouvernement, en diffusant des communiqués de presse avant que les décisions soient prises. Donc premièrement, il s'agit de la nécessité d'ouvrir des canaux d'accès réguliers au territoire européen qui n'existent presque pas. De ne pas s'inventer des nouveaux systèmes, mais tout simplement d'appliquer ce qui existe déjà. Il y a des outils qui existent, donc appliquer en premier la Convention de Genève concernant le statut de réfugié, et donc par exemple permettre aux demandeurs d'asile et aux personnes en quête d'une protection internationale d'obtenir des visas auprès de nos ambassades pour venir demander l'asile et donc ne pas contraindre des personnes qui fuient déjà des conflits ou des situations de violence, contraindre à prendre des routes si périlleuses, respecter le principe de non-refoulement, donc le principe selon lequel il est défendu de refouler en haute mer des personnes sans avoir analysé au cas par cas leur situation, ce qui n'est pas possible selon nous en haute mer. Et respecter le droit de la mer, qui est un autre outil qui existe depuis bien plus longtemps que les politiques migratoires, que Frontex, que Eurosur et que tout ça, et qui, de façon consuétudinaire avant et puis formalisée après, impose le secours en mer, que ce soit à des agents étatiques ou à des pêcheurs ou à des marins. Et donc aussi ne pas criminaliser ce secours en mer, ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays. Remettre en question le rôle de l'agence Frontex avant de lui augmenter ultérieurement le budget. Et donc, voilà, s'interroger sur les différences entre interception, sauvetage et refoulement. Sur les questions de responsabilité, qui est responsable pour ce qui se passe lors d'une opération Frontex, quelles sont les voies de recours s'il y a une violation des droits lors d'une opération de Frontex. Donc se poser quelques questions sur le rôle de cette agence, coopérer bien évidemment avec les pays du sud de la Méditerranée, mais dans une relation entre égaux. Donc la coopération, si elle doit être conditionnée à quelque chose, c'est au respect des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, et pas conditionnée au fait qu'on accepte de les réadmettre sur son territoire. Et aussi arrêter les pressions vers ces États pour qu'ils criminalisent, et c'est le cas aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et ailleurs, les migrations irrégulières. Donc voilà, les personnes qui se font refouler, expulser ou réadmettre, souvent après ont des soucis au niveau de leur pays d'origine, parce que émigrer est un délit dans certains de ces pays. Donc voilà, très brièvement et synthétiquement, des choses qui seraient possibles sur la base des outils existants et que par contre dont on ne parle pas.
Oui, effectivement, merci Alessandra Capodanno de Migre Europe d'avoir développé tous ces points. Et tu parles justement de ces pays qui retiennent leurs ressortissants, qui les empêchent de partir, et en criminalisant l'immigration. Et c'est justement le cas de l'Érythrée, qui est le pays d'où partait la majeure partie des migrants qui ont fait naufrage à Lampedusa.
Juste avant d'aborder cette partie-là avec Olivier Favier, parce qu'on voulait vraiment que tu nous expliques un petit peu quelle est la situation actuellement en Érythrée, on voulait quand même faire une petite pause musicale pour faire respirer les auditeurs, parce qu'on a quand même déjà eu pas mal d'informations, et on le fait quand même avec une chanson qui parle de Lampedusa, donc Lampedusa lo sa, de Assalti Frontali.
Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Andiamo a Lampedusa. La Lampedusa lo sa. La Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Porta della vita, porta dell'Europa. Lampedusa d'aprile era vuota, solitaria e remota, noi sull'isola in cento, come un unico gruppo, cantavamo nel vento. E non si deve sapere, non si può raccontare, la dignità in cammino e oggi viene dal mare. C'è stato un naufragio nel viaggio, chi sono gli extracomunitari? C'era il sole gabbiani, c'erano i pescecani, c'eravamo anche noi, migranti e lampedusani. Stessa felpa nera col cappuccio, a salutare una sorella che era una pantera nera, adesso un cruccio. 23 aprile, su quel pontile, da poco ripartito il mercantile. Ora so a Lampedusa è crudele il destino, qui è un mare bellissimo ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave mia, quanta dignità Lampedusa lo sa, che frega un cazzo agli italiani da fare. Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa.
senza il pane, non si lascia annegare, non si lascia una barca, 4 giorni in mezzo al mare, bloccata lì da una corvetta militare, 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore a cui parlare, mentre i turchi 13 marinai si lanciavano in soccorso, hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe, davanti a onde altissime, la nave Lavinia li puntava contro un missile, bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi per respingerli in Libia con la paura negli occhi, Lampedusa lo sa, non è un reato migrare, stasera sarà un ponte non una barriera esemplare, migrano balene e gli uccelli migratori, migrano gli esseri umani e io non calmo i miei bollori, saliti a bordo, saliti nell'inferno, il più assassino di tutti e senza dubbio il governo.
Ma quanta umanità dalle onde del mare, quanta verità dalla nave Pina, quanta dignità, Lampedusa lo sa, che frega un cazzo agli italiani da fare, la, la, Lampedusa lo sa, la, la, Lampedusa lo sa, qual è la sua verità, qual è la sua dignità.
Le nostre braccia aperte come finestre, questa canzone la dedichiamo ad Esther, a un funerale pieno di digos, ma anche di fratelli con cui condivido il grido, perché questo è un mondo assurdo, senti sulle coste l'onda d'urto, puoi capire che mi ci catapulto e mi suona nella testa come un antifurto. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa.
Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti.
C'était Assalti Frontali, un groupe italien de rap qui a interprété le morceau Lampedusa l'Ossa, qui a été écrit spécialement pour l'île de Lampedusa et tous les événements qu'elle connaît. Vous êtes toujours sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, Envie d'Italie, ce soir, qui revient sur la question des migrations en Europe. Et je me tourne vers Olivier Favier, qui est donc animateur du blog Dormira Jamais, pour parler de la situation de l'Érythrée. Beaucoup des naufragés du grand naufrage du 3 octobre dernier venaient d'Érythrée. Et en France, en Érythrée plutôt, pas un seul média n'a évoqué le naufrage. On peut préciser que l'Érythrée est classée dernière des pays respectant la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières et Amnesty International. Et par contre, depuis Paris, il y a une petite radio qui s'appelle ERENA, qui a diffusé cette information et qui a pu transmettre aux Érythréens de l'Érythrée l'annonce du drame de leur famille, de leurs proches. Et Binyam Simon, le directeur de la radio, disait dans une interview « Pour nous, c'est presque une affaire personnelle, car l'Érythrée n'a que 5 millions d'habitants, et donc perdre 200 à 300 vies, c'est potentiellement toucher chacun d'entre nous, et les morts peuvent être votre voisin, votre collègue. » Donc voilà, la radio qu'on peut retrouver sur www.erena.org qui émet depuis Paris vers l'Érythrée. Et donc Olivier, j'avais envie que tu nous racontes un petit peu la situation contemporaine de l'Érythrée, de cette dictature et de la situation que fuient les gens aujourd'hui.
Alors oui, disons que l'Érythrée, pour commencer, déjà c'était une ancienne colonie italienne. Il y a quelque chose d'assez étrange dans ce naufrage, c'est que la plupart effectivement des naufragés venaient d'Érythrée ou de Somalie, qui sont deux anciennes colonies italiennes, et plus précisément venaient de la Libye, et qui est aussi une colonie italienne. Donc il y a quelque chose un peu comme une sorte de retour du refoulé qui revient à ce moment-là et qui vient se noyer dans les eaux de Lampedusa. L'Érythrée est effectivement une des dictatures les plus terribles du monde, avec la Corée du Nord, on va dire, et bon. Aujourd'hui aussi la Syrie, parce qu'effectivement il y a quelque chose d'extrêmement tragique qui se produit. On est dans une situation réellement de crise. La différence c'est que l'Érythrée est dans une situation, enfin le dictateur de l'Érythrée, Isaias Afewerki, maintient le pays dans une situation parfois de guerre imaginaire, c'est-à-dire que c'est un pays qui est totalement armé, c'est un pays totalement militarisé, c'est-à-dire qu'il y a un service militaire pratiquement infini, dont les gens fuient pour échapper au service militaire. Et là on peut véritablement parler de réfugiés politiques. On n'est pas du tout dans un... On est aussi dans un cas de réfugiés économiques, parce que c'est un pays très pauvre de migrants, mais c'est effectivement une raison politique essentiellement. C'est-à-dire que c'est un pays prison. Et c'est un pays qui est sans doute le plus fermé du monde, je crois même aujourd'hui plus que la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord est un pays qui est quand même qui suscite un peu de curiosité, alors que l'Érythrée est un pays pratiquement inconnu. Si vous demandez à des défenseurs de la rue, très souvent les gens ne savent pas ce que c'est, ou vous dire mais c'est pas une région de l'Éthiopie, et ça l'a été, effectivement. C'est un pays qui a fait 30 ans de guerre pour recréer un État dont l'ironie est que son existence était, les frontières qu'il a rétablies étaient les frontières du colonisateur. L'Érythrée n'avait pas de d'existence avant la colonisation. C'est une histoire un peu complexe, c'est-à-dire que c'est un pays aussi qui a un rapport fantasmatique à l'Italie particulier, dont a fort bien parlé Fabienne Loéroux, par exemple. Elle a fait un livre qui s'appelle Érythrée, Éthiopie, les frères ennemis de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique. Et elle a fait des interviews notamment avec Isaias Afewerki, et il a un rapport particulièrement curieux avec l'Italie, un rapport qui évidemment qui est à la base même de son pouvoir, c'est-à-dire qu'effectivement l'Érythrée n'a de sens que par rapport à l'histoire du passé italien. Et même le nom d'Érythrée est un nom qui a été donné par les Italiens. C'est pas, il aurait pu retrouver un nom qui avait un sens précolonial, on va dire. Et c'est pas le cas. Donc voilà. Après, c'est un petit pays, effectivement, de 5 millions d'habitants, à peu près 1 million de personnes qui sont en fuite. Pas beaucoup en France, quelques-uns en Italie. L'Italie sont un pays de passage. C'est-à-dire qu'après, il y a des communautés importantes aux États-Unis, en Suède notamment, en Suisse. En Suisse, il y a eu pas mal d'articles sur la dictature. Et puis, ce qui a un petit peu changé les choses en France, c'est l'apparition début 2012 d'un livre que je conseille vraiment de lire, parce que c'est un livre formidable, de Léonard Vincent, qui est journaliste à RFI, qui s'appelle « Les Érythréens », qui est paru chez Rivage. Et Léonard, qui était avant à Reporters sans frontières, avait dans ce cadre-là rencontré effectivement énormément de journalistes poursuivis, inquiétés, fuyant le pays, etc. Et puis des réfugiés. Et il a commencé à faire une enquête là-dessus, à interviewer de tous ces gens. Et ce travail est d'autant plus remarquable qu'il n'a jamais pu mettre les pieds en Érythrée. C'est-à-dire qu'évidemment, il est venant de Reporters sans frontières, on est dans un pays qui ne respecte pas du tout la liberté de la presse, donc il est persona non grata. Et ce travail, donc, il l'a mené sur plusieurs années. Il a écrit ce livre, qui est un livre, en fait, qui est de deux témoignages, et notamment, il parle de Binyam et de Radio Irena, puisqu'il est aussi à l'origine de la création de cette radio.
Ah oui.
Et il a fait un travail aussi, tout récemment, un reportage radio sur Binyam, justement, La Voix de la Liberté, qui est un très très beau travail. Et c'est vrai que Radio Irena est un média d'espoir dans un pays qui n'en a pas beaucoup aujourd'hui.
Mmh. Ouais. Et Alessandra, est-ce qu'on peut revenir aussi sur la situation non seulement des Érythréens, mais d'autres populations et des pays d'Europe vers lesquels ils peuvent trouver un asile politique? Est-ce que tu sais un petit peu la répartition des pays qui acceptent des demandes?
Ben déjà, il existe un règlement qui s'appelle le règlement Dublin 2, selon lequel les personnes ont droit de demander l'asile dans le premier pays de l'Union européenne où ils sont arrivés. Et donc, c'est la raison pour laquelle par exemple, des pays comme l'Italie, mais aussi la Grèce, doivent gérer un nombre de demandes d'asile, selon eux, pas gérable. Bon, la question des chiffres est comme d'habitude retourner un peu au hasard, dans la mesure où, même si effectivement il s'agit de frontières externes de l'Union européenne, l'Italie ou la Grèce n'accueillent pas plus de réfugiés moins de réfugiés que la France ou l'Allemagne ou d'autres pays, parce que les réfugiés n'arrivent pas que par la mer et pas que de cette façon-là. Donc en tout cas, voilà, les réfugiés ne sont malheureusement pas accueillis dans le pays de leur choix. Mais dans le pays où ils ont mis les pieds la première fois, sauf s'ils arrivent à passer dans d'autres pays sans laisser aucune trace derrière eux, ce qui est très compliqué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Érythréens, les Somaliens, les Éthiopiens qui sont aujourd'hui à Lampedusa se mobilisent pour que leur empreinte digitale ne soit pas prise au moment de l'enregistrement. Parce que c'est via ces empreintes qui sont dans un fichier de niveau européen qu'on peut constater si une personne est passée par un autre pays avant de venir faire sa demande d'asile en France plutôt qu'en Allemagne ou ailleurs, et donc la renvoyer vers ce pays, donc l'Italie ou la Grèce, etc. Et donc ils savent pertinemment que ces empreintes les condamnent à rester en Italie, ce qui est un pays de passage, considéré de passage pour la plupart des migrants qui arrivent à cause de sa situation économique et de ses lois aussi en termes d'immigration. Et donc voilà, ça dépend beaucoup des nationalités. Olivier le disait, il y a beaucoup d'Érythréens. En Suisse, en Suède, il y en a en Italie, il y en a beaucoup, surtout dans la ville de Rome. Pour ce qui est des Tunisiens, par contre, le but est surtout d'arriver en France pour nombre d'entre eux. Ça dépend pour les Afghans, par exemple, qui sont le but est l'Angleterre dans beaucoup de cas. Donc c'est assez diversifié, mais en tout cas ce règlement empêche aux personnes de demander l'asile dans le pays de leur choix.
Enfin, ça c'est aberrant, parce que par exemple si moi j'ai de la famille en Suède, en fait si j'arrive en Italie, enfin je suis obligée de faire ma demande en Italie, donc d'attendre la réponse en Italie sans pouvoir recevoir l'aide par exemple de ma famille qui se trouve en Suède ou en Suisse.
Oui, avec quelques petites exceptions au cas où on est conjoint d'une personne reconnue réfugiée, mais il faut prouver le lien de parenté, exactement, ce qui n'est pas forcément évident venant de pays où parfois tout ce qui est état civil n'est pas très au point, etc. Donc à quelques exceptions près, c'est comme ça, et c'est d'ailleurs un règlement qui, selon nous, devrait être soit annulé, soit lourdement revu, et qui n'est pas remis en cause, notamment parce que les pays qui ne sont pas des frontières externes n'ont aucun intérêt à ce que, il y ait une véritable solidarité entre les pays de l'Union dans l'accueil de ces personnes.
Pas du tout. Je ne sais pas si les autres invités ont envie d'ajouter quelque chose ou de poser des questions ou à Olivier ou à Alessandra. Sinon, on peut prendre la suite.
Je voulais ajouter quelque chose. C'est qu'il y a une porosité qui existe en Italie, qui n'existe pas en Grèce aussi. C'est-à-dire que la Grèce est vraiment un pays qui est quand même un petit peu marginalisé dans l'Union européenne. Et il y a une sorte de double peine, si je peux dire, qui s'applique sur les émigrants. C'est-à-dire que les émigrants qui viennent de situations les plus défavorisées des pays les plus défavorisés se retrouvent dans les pays les moins favorisés d'Europe. En Grèce, on retrouve énormément de gens qui viennent du Bangladesh, du Soudan, du Darfour, de l'Érythrée, de la Somalie, etc. C'est-à-dire des gens qui, effectivement, n'ont aucune possibilité de retour, qui n'ont plus aucun contact avec leur famille. Et ça, j'en ai rencontré plusieurs. J'étais allé faire des reportages en Grèce l'an dernier. Et des gens qui n'ont pas de boulot, qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir partir dans un autre pays d'Europe. Et d'une certaine manière, ça arrange tout le monde de laisser la Grèce se débrouiller, qui est un pays aussi dont on connaît les problèmes et qui n'a évidemment pas les structures pour pouvoir accueillir effectivement je crois qu'il y a à peu près 1 million de migrants aujourd'hui en Grèce, sur un pays de 10 millions d'habitants. Donc la situation n'est quand même pas tout à fait comparable, je trouve, entre la Grèce et l'Italie. L'Italie est quand même un pays beaucoup plus riche, beaucoup plus étendu, évidemment, qui bénéficie de réelles infrastructures.
Qui pourrait faire un effort en plus.
Oui. Juste pour compléter, effectivement, ce paradoxe comme quoi donc les personnes les plus défavorisées se retrouvent dans des pays qui n'ont pas forcément les structures ou les moyens de les accueillir fait aussi produit une autre conséquence, c'est que parmi les personnes qui demandent l'asile en Grèce, encore plus qu'en Italie, mais en Italie, voilà, les chiffres sont pas très encourageantes non plus. Mmh. Le taux de reconnaissance de statut de réfugié, donc les personnes disent avoir besoin d'une protection internationale, et puis selon des systèmes plus ou moins différents entre eux, on statue si c'est oui, si c'est non, si c'est comme c'est comme ça, on va dire. Le taux est extrêmement bas dans un pays comme la Grèce, et c'est pas parce que les personnes n'ont pas le droit, mais c'est parce que on ne veut pas, à cause de cette pression, ou en tout cas de cette incapacité à présent de gérer cette présence.
Alors, merci beaucoup. Enfin, on va continuer en écoutant un petit extrait du témoignage de Juliette Gerbrand, toujours sous Lampedusa. Et voilà, elle nous parle un petit peu de l'arrivée des politiques.
Et est-ce que tu étais là quand les politiques sont arrivées à Lampedusa ?
Oui, j'ai couvert la visite de Laura Boldrini, la visite de Cécile Kyenge et la grande visite de Barroso, Letta, Alfano et Malmström. Donc ça, c'était assez impressionnant de voir le décalage entre les habitants, entre la situation sur l'île et ces officiels qui avaient l'air de découvrir un peu la lune de façon très hypocrite, comme tout le monde l'a souligné. Laura Boldrini, tout le monde savait qu'elle allait venir, elle était attendue, elle est ancienne porte-parole du HCR, c'est quelqu'un qui connaît bien l'île et la situation. Donc voilà, elle est venue, elle a dit ce qu'elle avait à dire, notamment sur le fait qu'il fallait s'attaquer un peu aux racines du problème. Pareil pour Cécile Kyenge. La visite de Barroso, c'était assez surréaliste. Ils ont été accueillis à l'aéroport au cri de assassins, bouffoni, vergogna. C'était très très fort. Ils n'avaient pas prévu d'aller au centre justement d'accueil. Ils y sont allés quand même, grâce d'ailleurs à la pression de Giusy Nicolini, la maire de Lampedusa, entre autres choses, pas que grâce à la pression des manifestants. Ils se sont rendus au hangar où étaient tous les cercueils. Il y a les photos de Letta agenouillé. Et alors, une anecdote à ce sujet, c'est qu'ils avaient l'air très bouleversés. Et je pense qu'ils étaient réellement bouleversés, mais je pense qu'ils étaient surtout bouleversés parce que la veille, enfin, ou le matin même, j'étais à la mairie et l'attachée de presse, enfin, le bras droit de la maire me disait « Je ne sais pas s'ils vont aller au hangar, parce que franchement, je me suis approchée hier et ça devient proprement intenable. C'est irrespirable. » Parce que ça fait un moment, ça faisait déjà un moment que les cercueils étaient là, c'est pas réfrigéré, enfin bon, je vous passe les détails. Nous, quand ça a été ouvert à la presse, il y avait une forte odeur d'eau de Javel, c'était pas très gai, mais c'était propre. Et là, elle me disait, moi je me suis approchée, les gens qui travaillent ont des masques, c'est affreux. Et donc ils y sont allés parce que les photos étaient un peu obligées, mais je pense qu'ils ont dû avoir l'estomac un peu retourné. Et c'est surtout ça qui les a bouleversés, ce qui était peut-être une bonne chose, ouais. Même si on a vu que ça n'avait pas... T'es suivi de beaucoup d'effets.
Vous êtes toujours sous Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez comme tous les premiers lundis du mois en Viditalie. Alors nous sommes très heureux ce soir parce que on a un beau plateau et on parle d'une situation très grave, celle des migrants qui essaient de rentrer dans la forteresse Europe et aussi du drame de Lampedusa. Et comme la journaliste RFI Juliette Gerbrand vient de l'expliquer, donc il y a eu l'énième drame à Lampedusa, mais les choses n'ont pas vraiment changé. Donc, je voulais redemander, en fait, à Alessandra Capodanno du réseau Migreurope de parler et d'expliquer encore mieux qu'est-ce qui s'est passé après ce drame, en fait, et d'essayer encore un peu d'approfondir la situation par rapport à Frontex et à Aerosur.
Très bien. Donc, au-delà, je l'évoquais tout à l'heure, des visites officielles, des larmes de crocodile et de tout ce qu'on a pu voir dans cette mise en scène qui a eu lieu tout de suite après le naufrage. Il y a eu deux rendez-vous au niveau institutionnel européen tout de suite après le naufrage. Donc une réunion plénière du Parlement européen dans le cadre de laquelle on a discuté de ces questions aussi et de la réponse à y donner. Et surtout une réunion du Conseil des ministres de l'Union européenne les 24 et 25 octobre dernier à Bruxelles. Une réunion dans à l'occasion de laquelle on a décidé de ne rien décider. C'est peut-être pas assez grave pour qu'on prenne ce qui s'est passé, pour qu'on prenne des vraies décisions. Et en gros, on a tout simplement décidé de continuer à mener la politique actuelle, donc en renforçant Frontex, en accélérant la mise en place des ressources, j'y reviendrai tout à l'heure, et en coopérant avec les pays tiers. Donc c'est exactement ce qui est déjà fait et qui est plus ou moins bien décrit par les mots qui sont employés. Je pense la coopération. Donc peut-être quelques mots sur ce qu'est Frontex. Frontex, je le disais tout à l'heure, est une agence créée en 2005, opérationnelle depuis 2006, basée à Varsovie. Son rôle est de coordonner donc les activités des États membres de l'Union européenne en matière de contrôle des frontières extérieures de l'Union. Frontex fait plusieurs choses. Elle fait de l'analyse de risque. Donc pour essayer de imaginer quels lieux, quelles frontières vont être donc à risque migratoire pour la suite. Il n'y a pas de transparence dans tout ce que fait Frontex et aussi dans cette analyse de risque qui est donc comment ce risque est évalué, par qui et de quelle façon.
C'est-à-dire c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai vu dans des documentaires, par exemple, de parler avec eux, d'avoir des informations précises. Enfin, j'imagine que vous, à Migro Europe, vous avez rencontré le même problème.
Oui, ce qu'on a pu constater et qui nous a d'ailleurs motivé à mettre en place une campagne qui est en cours aujourd'hui et qui s'appelle Frontexit. Je vous invite à visiter le site frontexit.org, qui est bilingue français-anglais, et où il y a beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup d'outils, un manuel de formation, des vidéos, vraiment beaucoup d'outils pour se documenter et pour travailler autour de cette agence. Et une des raisons qui nous a poussé à travailler sur cette agence est, entre autres, le fait que les seuls à communiquer sur Frontex, c'est Frontex, au moins jusqu'à présent. Donc la seule source d'information sur Frontex est le site de l'agence, ses rapports, et il y a vraiment une propagande, j'ai envie de dire, autour de cette agence qui est extrêmement bien menée. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils font vraiment, comment ils le font, et que ce soit des plus hautes sphères au dernier des agents, il est vraiment, vraiment difficile qu'on approche la chose de façon formelle ou informelle d'obtenir des informations. Donc voilà, Frontex fait de l'analyse de risque. Elle mène aussi des opérations, donc elle coordonne des opérations.
Enfin, tout à l'heure, tu disais justement coordonne, mais par exemple à Lampedusa, donc enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait bien...
Alors à Lampedusa, c'est un cas particulier, parce qu'il y a à Lampedusa, depuis déjà des années, la présence d'agents de Frontex, mais par contre, dans cette zone de la Méditerranée, les opérations sont menées... que par les Italiens. Donc cette présence, on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais et on l'a pu observer lors d'une mission à Lampedusa quelques jours avant le naufrage, un bateau de la Guardia Civile espagnole est présent sur l'île, dans le port où arrivent les bateaux de migrants. Et donc ce bateau est une preuve que Frontex est présente sur l'île, parce que sans ça, un bateau espagnol dans un port italien ne se justifierait pas. Donc Frontex coordonne, ça veut dire que le plan opérationnel de l'opération, que ce soit d'une patrouille ou une interception ou autre, est défini par Frontex. Les agents et les moyens qui sont déployés et qui sont utilisés appartiennent aux États membres, principalement à l'État hôte, qui est donc, en parlant de Lampedusa, ce serait l'Italie, mais aussi par des États qui participent à ces opérations, et donc dans le cas de Lampedusa, ce serait l'Espagne. Donc Frontex décide quoi faire, et puis l'Italie, avec des Espagnols ou d'autres, mettent en place les opérations. Et c'est dans ce cadre-là que la question de la responsabilité se pose, dans la mesure où, dans une intervention de ce type, qui est responsable ? Frontex, qui a défini le plan opérationnel ? L'Italie, parce qu'elle est hôte de l'opération ? L'Espagne, parce que l'agent qui aurait commis une erreur ou une infraction est espagnol ? On ne sait pas. Et donc ça, c'est une des principales questions que nous nous posons.
Enfin, de bien identifier, en fait, les responsables.
La chaîne de responsabilité et aussi, voilà, les possibilités d'agir contre l'agence ou contre l'État hôte ou contre l'agent au cas où des choses n'allaient pas dans la bonne direction. Et troisième point, Frontex fait directement, en tant que Frontex, de la coopération avec des États tiers, donc des États non membres de l'Union européenne, par le biais d'accords de travail. Donc c'est selon nous des accords internationaux, parce que ces accords de travail concernent de la collaboration entre police, des patrouillements conjoints et des choses qui ont quand même des effets assez directs sur la vie des personnes. Mais par contre, puisque c'est des accords de travail, ces accords ne passent pas par le Parlement européen, donc ne sont validés par aucune instance démocratique. C'est une agence qui parfois est très proche du secteur privé, et notamment du secteur de la technologie et tout ça, qui signe des accords avec des États tiers sans que nos représentants puissent avoir leur mot à dire là-dessus. Donc quand on dit qu'il serait peut-être nécessaire de se poser quelques questions autour du rôle de cette agence avant d'augmenter encore plus son budget, en sachant que donc Frontex, depuis 2011, peut elle-même acheter du matériel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc avant, Frontex fonctionnait qu'avec du matériel prêté par des États membres. Donc matériel, on parle de bateaux, hélicoptères, caméras thermiques. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de drones. L'idée de faire surveiller la Méditerranée par des drones, c'est déjà le cas aux États-Unis.
C'est quoi des drones exactement?
Des drones, moi, je ne suis pas très experte, mais c'est des petits objets robotiques, des pistes d'avion. Qui vole tout seul, quoi, sans le pilote à bord, et qui aurait des caméras et qui pourrait contrôler donc la Méditerranée ou d'autres régions. Depuis 2011, donc l'agence peut acheter du matériel. Par contre, ils disent que leurs 86 millions d'euros par an sont absolument insuffisants pour acheter le matériel dont ils auraient besoin et payer le personnel, etc. Et ça, c'est peut-être bien.
Peut-être on s'arrête là pour le moment par rapport à Frontex. Merci pour les précisions, parce que je pense qu'il y en avait besoin. Et je voulais juste, avant de faire une autre petite pause en musique pour respirer un petit peu, citer les mots de la mère de Lampedusa, Giusy Nicolini, qui disait très bien, elle dit « Il faut changer les lois, changer les politiques d'asile et d'accueil pour cesser de faire mourir des innocents. » Donc en fait, je pense que les choses à faire, on le sait très bien. Mais voilà, par contre, il n'y a pas la volonté politique pour les faire.
Laetitia Tura et Hélène Crousilla, vous avez on a beaucoup parlé de la zone sud-est de la Méditerranée, avec l'Italie comme zone frontière, avec la Grèce. Et vous avez travaillé aussi sur d'autres régions de la Méditerranée qui sont concernées par tous ces drames de vie. Vous êtes en train de réaliser un film documentaire sur l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Et vous allez nous en dire plus, vous allez préciser quel a été votre travail, et notamment la notion de mort aux frontières qu'Alessandra a évoquée tout à l'heure, qui est le cœur de votre travail, de votre film. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre travail ? Je ne sais pas laquelle des deux veut parler.
Oui, donc on travaille sur un film, Hélène et moi, depuis 4-5 ans, qui s'appelle « Les messagers ». Et donc, les messagers, c'est des témoignages qu'on a récoltés donc depuis 2008 sur la mort de migrants. Donc, c'est des personnes qu'on a rencontrées, des subsahariens, et qui racontent comment elles ont perdu un proche, été témoins d'une mort, d'un meurtre, d'une disparition. C'est pour la plupart des témoignages qu'on a récoltés, on a travaillé essentiellement donc sur le territoire marocain. Surtout le territoire marocain, enfin en tout cas sur des zones très éclatées, que ce soit à l'est vers la frontière avec l'Algérie, dans les grandes villes de Rabat, Casablanca et Tanger, Et les morts qui nous ont été racontées sont survenues donc dans tous ces points-là et bien plus loin, puisque ça va du sud du Maroc au large de la Mauritanie et entre les Canaries jusque sur les côtes tunisiennes. Et sans oublier donc Melilla, qui est donc l'enclave espagnole sur le territoire marocain et donc une des portes d'entrée vers l'Europe à partir du continent africain et de manière où on peut entrer de manière par voie terrestre. Mmh. Voilà.
Vous avez offert à Envie d'Italie des petits extraits, des petites pilules sonores de votre travail documentaire. Donc, on va écouter.
C'est un combat, c'est une guerre, comme vous entendez la guerre. On traverse d'abord le Sahara à pied, on entre au Maroc. On marche à pied pour arriver soit à Septa, soit à Melilla, à Nador. On marche à pied, on fait des centaines de kilomètres, des semaines et des semaines. On vit mal, on vit dans la pluie et le soleil. Si tu te retrouves à Melilla un jour, ça veut dire que tu as gagné. Mais si tu laisses aussi ta tête, pour moi, l'aventure aussi, tu as gagné. C'est à peu près ça, c'est pour ça que j'utilise le terme « guerre ». Nous sommes rendus à l'attaque pour aller attaquer la barrière, pour tenter notre chance, si on pouvait entrer en Europe à Melilla. Il était 4h du matin. Nous, les Camerounais, on avait attaqué, on avait notre groupe d'attaque. On a attaqué, ça n'a pas donné. On était dans un tranquillo, dans notre jargon, on était dans un tranquillo caché pour essayer de cibler la Guardia Civile. Il y avait un groupe d'attaque nigériens aussi, à notre gauche, eux aussi ils étaient dans l'air tranquillo. Ils sont allés à la barrière pour poser les échelles. La Guardia Civile les a repoussés. C'est comme ça que la force auxiliaire du côté marocain est partie pour les chasser. Un qui a pris son arme, il a tiré à bout portant sur le Nigérien. Le Nigérien est tombé sur place, il est mort. Tout le groupe s'est dispersé, chacun a pris sa route. Même nous-mêmes qui étions cachés, tout le monde a pris sa route pour rentrer en forêt, à Gorogo. Les Nigériens se sont rassemblés pour aller récupérer le corps de leurs frères. Arrivés là-bas à la barrière, le corps n'était plus sur place. Ils ont trouvé la force auxiliaire, la police, la gendarmerie royale. On les a repoussés, il n'y avait plus le corps. C'était la première fois que les alliés ont tué un noir. C'était la première fois.
Vous avez su ce qu'il était devenu, ce corps?
Non, jusqu'à présent. Le corps est parti, soit ils l'ont enterré, je ne sais pas. Celui-là est mort, c'est comme ça, c'est passé.
Nous avons donc écouté un extrait des messagers. Donc Laetitia, tu avais commencé à parler de votre projet. Hélène, vous l'avez co-réalisé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce projet? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure difficile? Et raconter un petit peu l'origine de ce projet et les conditions de sa production.
Du coup, Laetitia travaillait sur la mise à l'écart des migrants en photographe. Donc, travaillait déjà depuis un moment au Maroc. Et à un moment donné, elle m'a proposé, on a discuté, on a désiré à un moment donné se poser la question de recueillir la parole des personnes qu'elle photographiait ou des territoires ou des. Donc ma présence au départ a été de venir pour mener des entretiens.
D'accord.
Et travailler des prises de son sur le territoire des photographies de Laetitia.
D'accord.
Voilà, alors on est parti de là, d'un travail photographique et sonore. Et puis petit à petit, on s'est aperçu, donc en écoutant un certain nombre de récits et en se déplaçant donc à l'intérieur du Maroc... et aussi en France, que la question de la disparition était récurrente dans les témoignages. Et donc là, on a commencé vraiment à réfléchir à cette question et du coup à vouloir travailler précisément sur ce sujet. Quoi.
Donc les disparitions, ça veut dire que vous avez rencontré des familles qui vous ont parlé de leurs proches disparus?
Alors, on a rencontré des familles, effectivement, dont les proches ont disparu, on ne sait où. On a rencontré aussi des gens rescapés de naufrages. On a rencontré des gens témoins de meurtres. Voilà, donc c'est en écoutant toutes ces personnes qu'on a commencé à comprendre qu'on était devant un phénomène, ce que nous on appelait un phénomène, c'est-à-dire que ces morts n'étaient pas le fait de conditions climatiques essentiellement, mais c'était aussi toute une série de
En fait, on commençait à comprendre que les morts qu'on en entendait de manière très abstraite, on parlait pas seulement de personnes mortes, c'est-à-dire qui dit mort dit enterrement, dit sépulture, dit deuil. On commençait à prendre la mesure de ce phénomène qui crée de la disparition. C'est-à-dire que quand un migrant nous racontait qu'il avait perdu sur sa route un de ses compagnons dans le désert ou dans un naufrage, eh bien, ils pouvaient pas nous répondre pour la plupart du temps sur où était le corps. Mmh. Et donc, nous, on a travaillé le film avec ce fil conducteur, où sont les corps. Mmh. Alors, le film au résultat est un peu différent de cette question, mais c'est vraiment ça qui travaille le film en filigrane. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sépulture. Qu'est-ce qui se passe après? Comment les personnes qui vivent cette expérience-là transportent cette histoire-là? Comment les familles qui perdent un proche reçoivent ou pas la nouvelle? Qui donne la nouvelle d'une disparition? C'est difficile d'annoncer à quelqu'un qui, puisqu'il n'y a pas de preuve. Voilà, sûr, ça pose derrière, il y a toute une série de questions en cascade qu'on a essayé de soulever et qu'on comprenait au fur et à mesure des témoignages. Nous, on n'est pas arrivé avec cette envie de film, avec un sujet clos défini, puisqu'on avançait à l'aveugle, voilà, en écoutant.
Oui, vous avez découvert petit à petit votre matière aussi. Et dans quel pays vous vous êtes rendu alors?
Ben, on s'est essentiellement rendu au Maroc,
oui.
En Tunisie et à Melilla. Voilà. Mmh.
D'accord.
Et donc, on était face à des témoignages qui étaient très semblables sur des territoires éclatés. Mmh. C'est justement cet éclatement géographique qui nous permettait de comprendre qu'on était face à un phénomène et pas seulement à ce qu'on pouvait considérer avant comme des accidents. Ben voilà, en mer, il y a eu un naufrage et il fait pas beau et c'est dur la mer et dans une petite embarcation, etc. Non, il n'y avait pas seulement des conditions climatiques. Il y a des types de récits qu'on peut retrouver et qu'on a retrouvés notamment dans les naufrages qui ont été très médiatisés où un récit un peu type, il y a deux embarcations, il y en a une qui est coulée, qui coule, qu'on laisse couler, et l'autre qui est sauvé. Et donc, effectivement, ensuite, après, médiatiquement, il y a toute cette ambiguïté dans le traitement médiatique, ouais, entre le sauvetage et l'interception. Ceux qui viennent intercepter peuvent se présenter comme sauveteurs. Mm-hmm. Mais donc, c'est de l'ordre de la renversement de la figure, quoi, entre le bourreau et le sauveteur. Voilà. Ouais. Et donc ça, on a des témoignages qui évoquent des situations très proches entre le nord du Maroc, au large des côtes de Al-Hoceima, par exemple, et la Aouyoune, donc le sud marocain, près des Canaries, et à des époques différentes.
D'accord. Et est-ce que les différentes personnes que vous avez rencontrées donc ont évoqué tous ces morts sans sépulture, est-ce qu'ils ont conscience les uns les autres de partager ces récits, de partager ce même phénomène?
Ben, c'est bien ça la difficulté en fait. C'est on en a vraiment pris conscience quand on a été en Tunisie en 2012, où on s'est aperçu en fait en écoutant les mères tunisiennes rechercher leurs enfants et les militants qui les accompagnaient dans ce travail, qu'ils avaient finalement, disons que ils reliaient difficilement leur propre expérience à celle des subsahariens. Au Maroc, par exemple. C'est-à-dire que ces expériences-là, elles sont pas reliées entre elles, voilà. Et donc, du coup, il y a comme ça une connaissance qui est complètement parcellaire de tout l'enjeu autour du territoire, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Oui, Martine Abbat.
Je voulais savoir si ces familles avaient honte d'en parler.
Honte. Alors, donc, nous, les familles, hein, donc les...
pas les proches compagnons qui font cette expérience de migration, donc les familles de ceux qui sont partis. Donc, c'est les personnes qu'on a rencontrées en Tunisie. On est arrivé à un moment donné où, un an après la révolution tunisienne, on comprend que partir, c'est vraiment le fait du pauvre du pauvre, quoi. Et oui, il y a un choix honteux. Mais la mobilisation que ces familles étaient en train de faire, qui était un phénomène vraiment nouveau, c'est-à-dire que ça émane plus seulement d'une famille qui cherche toute seule dans son coin, mais il y a une espèce de mise en commun de recherche adressée au gouvernement tunisien et au gouvernement italien pour concernant toutes les disparitions qui avaient lieu des enfants qui étaient partis juste après la révolution tunisienne, donc entre janvier et mars-avril 2011. Il y a une revendication et une transformation de cette perception de la migration. Et donc là, on commence à affirmer que mon fils est parti, mais voilà, la honte se déplace.
Et il y a peut-être un droit aussi des familles qui s'affirment, un droit à savoir, un droit à avoir des nouvelles des membres de la famille.
Complètement, il y a un droit qui s'affirme. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'il y a pour nous une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, on part, la personne part voyage, elle est prête. Souvent, elle est prête à mourir. C'est-à-dire, souvent, voilà, je suis soldat, j'y vais, et peut-être que je vais rencontrer la mort. Et donc, c'est une expérience qui est complètement intériorisée, qui est complètement individualisée. Et au niveau de la famille, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours de l'ordre d'une responsabilité individuelle. Et ce qui se passe avec le mouvement de ces femmes, de ces mères tunisiennes, c'est cette prise en compte et cet appel aux politiques. Mmh. À part au Mali, où effectivement on avait connaissance d'une association de femmes qui recherchaient leur fils et qui était soutenue par l'AM, on avait peu connaissance en fait du caractère collectif de la lutte et surtout d'en appeler à l'État. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que, en fait, l'enjeu de la disparition, c'est aussi l'enjeu d'une reconnaissance collective.
Oui.
C'est-à-dire que dès lors que les gens disparaissent comme ça individuellement, évidemment, on ne reconnaît pas sur le plan politique et global ce qui se passe. Or, dès lors qu'on passe sur le plan politique, on peut commencer déjà à, sinon commémorer, en tout cas donner une place à cette disparition sur le plan collectif. Donc ça, c'est pour nous, c'est quelque chose qui est... Ce mouvement des femmes tunisiennes, c'est quelque chose qui allait dans ce sens-là. Et après, toutes les manifestations qui ont eu lieu en Italie, il y a quelque chose... on sent qu'il y a quelque chose, une recherche comme ça, qui est de collectivement porter mémoire et nommer cette disparition. Voilà, ça, c'est assez intéressant.
Oui, tu fais référence aux manifestations des Érythréens d'Italie qui ont voulu témoigner suite au naufrage à Lampedusa. C'est ça ?
Par exemple, mais pas que. Je pense qu'il y a eu. Je pensais à des.
Il y a eu aussi effectivement une délégation de familles de jeunes Tunisiens disparus entre 2011 et 2012 qui s'est rendue en Italie où elle est restée très longtemps. Je pense qu'une partie des membres de la délégation y sont toujours. Pour porter auprès du gouvernement italien les mêmes demandes qui avaient été déjà portées auprès du gouvernement tunisien, et notamment la mise en place d'une enquête indépendante sur toute une série de naufrages qui ont eu lieu au mois de mars de 2011 dans un temps très très rapproché. Et on estime en gros que dans le courant de 2011, il y a au moins 1000 jeunes Tunisiens qui sont ainsi disparus. Il s'agit de jeunes dont on a, pour certains, pas pour tous, mais des véritables fichiers avec des photos, des empreintes digitales, la date de départ, les passagers du bateau, etc. Et donc c'est un mouvement spontané des familles qui ont après été soutenues par plusieurs organisation de la société civile ou collectif de femmes en particulier. Et Et voilà, c'est donc cette demande, en tout cas, oui, d'une enquête, d'une réponse, d'un corps à enterrer ou au moins de faits précis. Et ces enquêtes n'ont jusqu'à présent jamais eu lieu. Malgré, il y ait, même si c'est très compliqué, mais il y ait en tout cas des moyens pour essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Et je profite pour mentionner, pour revenir aux faits récents, mais il y a beaucoup d'autres cas qu'on pourrait mentionner. Le naufrage du 11 octobre dernier entre Malte et Lampedusa, c'est un énième naufrage pour lequel l'épave du bateau, à l'intérieur de laquelle il y a des centaines de morts, qui sont donc à présent disparus, parce qu'il n'y a pas de corps, et n'a pas été localisé, n'a pas été repêché, ces corps sont encore là-dessous. Il y a le naufrage du 6 et 7 septembre à Lampione, qui est une toute petite île, c'est pas une île, c'est un rocher, à côté de Lampedusa, où là aussi, circonstances un peu compliquées à comprendre, une épave avec beaucoup de corps dedans qui n'a jamais été repêché. Donc au-delà des choses impossibles, il y a aussi les choses possibles qui, encore une fois, ne sont pas faites.
Oui, tu fais bien de le préciser. Et comme la technique semble revenue à flot, nous allons pouvoir écouter les extraits du documentaire Les Messagers, qui est donc réalisé par Laetitia Touri et Hélène Toura. Décidément. Et Laetitia Toura et Hélène Cruzilla. Donc on va écouter un premier extrait.
Les personnes qui sont désignées, qui acceptent, ben on creuse. Et puis il y a une habitude pour que le cercueil puisse bien descendre. Et après, bon, on le revêt. Et là, ce qu'on a fait, nous, pour un peu l'ensemble, hein, avec ce qu'on avait, ce qu'on pouvait, leur donner une certaine aussi visibilité. Vous voyez ? Là, s'il n'y a pas de distinction, regardez comme ça pousse. Il y a un signe qui sont là.
Donc ici, il y a trois corps. Hein, et des corps, ils sont décédés presque 8 ans en avant, comme ça. Il y a un type de Sénégal, un de la fille de Burkina Faso et un autre de Burkina Faso.
Là, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de notre habillement.
Hein, oui.
On a fait l'essentiel, c'est-à-dire on a honoré avec la tombe qui a été faite et bien faite, puisqu'elle résiste. Voilà. Mais c'est vrai, la question, c'est au cas où la famille viendrait. Hein, c'est ça. Pour ne pas se tromper, de façon à se recueillir.
Nous avons donc écouté un extrait des Messagers, votre film documentaire, et on évoquait justement la question des morts sans sépulture qui justement est évoquée ici dans cet extrait. Vous parliez tout à l'heure des associations que vous avez rencontrées, des collectifs qui se sont formés pour demander reconnaissance pour ces personnes disparues. Est-ce que ces personnes, est-ce qu'elles ont obtenu gain de cause auprès des autorités?
Là, juste pour resituer ce qu'on vient d'écouter, on est au Maroc,
oui.
À Oujda, donc, qui est la ville frontalière avec l'Algérie, qui est une frontière fermée. Et on est dans le cimetière chrétien. Et en fait, c'est le père Lépine, hein, qu'on entend raconter comment se passe la sépulture. Voilà. Et donc... ce qui est intéressant là dans cette séquence, c'est que lui raconte comment il a pris en charge certains enterrements de migrants dont il avait connaissance qu'ils étaient décédés. Mais d'une part, alors pour mesurer ça, à la fois c'est ce qu'il arrive à faire, c'est l'enterrement de certains migrants. C'est pas tous les migrants qui sont décédés dans cette région-là, puisque Oujda est un départ des convois pour passer la frontière par la mer, donc plus au nord. C'est certain. Et j'ai perdu le fil.
Le père Lépine.
Le père Lépine, voilà. Il ne peut pas tout. C'est-à-dire, quand on arrive dans le cimetière, on est aussi frappé à la fois par ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire à leur donner un encadrement, une tombe qui est couverte et pas seulement de la terre, c'est-à-dire que c'est quand même, somme toute, assez bien fini, et en même temps, il n'y a pas de nom. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait, ça veut dire récolter l'argent pour payer la tombe, l'enterrement, etc., les pompes funèbres, et en même temps, il y a un inachèvement dans ce processus-là. Mais tout ça tient à sa volonté à lui, c'est-à-dire que c'est un individu. Et souvent, dans les démarches, les initiatives qu'on a rencontrées, il y a un bout du travail qui est fait. Personne ne peut, et c'est pas la pierre qu'on jette, c'est un constat que personne ne peut remplir tous les maillons de la chaîne qui, de toute façon, est cassé quelque part. Voilà.
Dans tous ces récits qu'on a, on est sans cesse face au constat que ce sont des personnes individuelles qui, par leur bonne volonté, leur humanité, leur solidarité, viennent accomplir une mission, un devoir qui est abandonné du politique. Donc, dans tous les récits qu'on peut avoir, à chaque fois, c'est ce qui ressort le plus, c'est des personnes laissées à leurs difficultés et à leur tentative individuelle de faire face et de répondre à un besoin criant de reconnaissance et de faire avancer. Tu voulais ajouter quelque chose, Hélène ?
Est-ce que je peux poser une question ?
Bien sûr, Martine Abbat.
Je me demandais, vous avez parlé des mères tunisiennes. Ça veut dire qu'au Maroc, où vous avez le plus tourné, il n'y a pas ce mouvement des mères
Non, et le mouvement des mères tunisiennes, il a pu arriver à la faveur de la révolution. Au Maroc, c'est impensable, un mouvement collectif de cette ampleur-là. Ça n'existe pas. Alors, il y a eu, par moments, il y a eu des marches collectives dans la rue, à un moment donné, pour une femme nigériane, à Oujda, toujours, où il y a une procession qui a été organisée dans la ville à sa mémoire. Donc ça, je crois que c'était en 2004. Mais voilà, d'abord, ce n'était pas une revendication pour quelque chose, c'est une procession au moment de son enterrement dans la ville. Mmh. Il n'y a pas de démarche collective de revendication. Déjà, les familles aussi, les familles des subsahariens ne sont pas sur place. Enfin, il y a quelques proches, mais qui sont dans la même galère, quoi.
Mmh. Et de ce collectif de mères tunisiennes, est-ce qu'elles ont obtenu gain de cause alors de leur revendication de reconnaissance des disparitions ? Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus ?
Ça, je pense qu'Alexandra est mieux informée que nous à ce sujet.
Alexandra Capodanne de Migre Europe, est-ce que dans l'association, dans le réseau Migre Europe, vous avez justement des échos, des récits de cette perte des personnes disparues, de ces morts sans sépulture que tu évoquais aussi tout à l'heure?
Oui, bien évidemment, puisque le travail qu'on fait est un travail concernant les frontières et ce qui s'y passe et les conséquences des politiques migratoires européennes. Bien évidemment, on s'est intéressé à la question des disparitions et des morts. Alors, pour ce qui est des demandes et des revendications des familles de disparus tunisiens, je me sens pas très légitime pour en parler, mais c'est le cas, je pense, de tout le monde ici autour de cette table, parce qu'il y a une table. Mais voilà, la demande principale est, je le disais tout à l'heure, celle de l'ouverture d'une enquête pour avoir des réponses quant au sort de leurs proches, et ça n'a pas été le cas ni côté tunisien ni côté italien, malgré les pourparlers qui ont pu être faits des deux côtés par les deux gouvernements, mais sur la base des informations que j'ai en ce moment, aucune enquête est aujourd'hui en place. Il y a différentes organisations plus ou moins formalisées et structurées qui soutiennent ce mouvement des familles. Une des associations membres du réseau Migre Europe est le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui s'est pas mal penché aussi sur la question. Et un résultat, entre guillemets, si on veut l'appeler comme ça, c'est la visibilité du drame de ces familles, la visibilité de ces disparitions, le fait que on sache aujourd'hui qu'il y a 1000 jeunes Tunisiens dans un espace maritime relativement petit qui sont disparus dans le rien, quoi, et qu'il y a des familles qui les cherchent, et etc. Donc la visibilité de cette mobilisation, la visibilité de ce drame est peut-être un des résultats qui ont été rejoints par ce mouvement. Par contre, au Maroc, vous le disiez tout à l'heure, c'est beaucoup moins visible parce que ça ne concerne pas. Il y a bien sûr beaucoup de citoyens marocains qui ont perdu la vie dans la tentative de rejoindre l'Europe, mais en ce moment, quand on parle de morts aux frontières du Maroc, c'est surtout des morts de citoyens subsahariens. Donc qui tentent le passage vers l'Europe à Ceuta, à Melilla ou par la mer également, et qui sont renvoyés par les autorités européennes, espagnoles à l'occurrence, vers le Maroc, et du Maroc abandonnés à la frontière avec l'Algérie à Oujda. Donc refoulés, abandonnés là-bas, et donc c'est des morts qui ont jusqu'à présent beaucoup moins parlé à la société marocaine. Ça commence à changer aujourd'hui, par contre. Et il y a donc de plus en plus d'associations marocaines et d'associations de migrants qui travaillent ensemble sur la question. Et c'est aussi un résultat important.
Oui. Et Martine Abad, tu es journaliste et toi cet été, tu étais en vacances dans le sud de la Sicile sur l'île de Pantelleria et il t'est arrivé une histoire assez extraordinaire et terrible que tu vas nous raconter qui est tout à fait dans le fil de ce que nous évoquons maintenant.
Bah oui, en fait, j'ai trouvé une bouteille de plastique, une bouteille de soda avec à l'intérieur des messages. Il y avait deux messages écrits en arabe. Et donc, je l'ai ramassé. Enfin, j'ai pas vu tout de suite que c'était des messages. J'étais partie ramasser du plastique. En fait, je fais ça tout le temps. Et donc, j'ai vu cette bouteille et j'ai cru qu'il y avait un poisson dedans. Et donc, je l'ai mise dans mon sac plastique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit non, un poisson ne peut pas rentrer dans une bouteille de plastique. Donc, je suis allée récupérer ma bouteille. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était des papiers. Je pouvais pas les enlever, donc je suis retournée à la maison et j'ai coupé la bouteille. Et puis c'était écrit en arabe, donc je pouvais pas du tout savoir ce qu'il y avait d'écrit. Mais étant donné que Pantelleria n'est pas très loin de Lampedusa, je me disais peut-être que c'est effectivement un message jeté par une embarcation. Enfin voilà. Et puis je l'ai fait traduire il y a une quinzaine de jours, et donc effectivement il s'agit d'un message d'appel au secours. Et un autre message avec une liste de prénoms, voilà.
Et tu as su quoi en faire après ?
Mais la question c'est ça, c'est qu'en fait je me suis dit j'ai trouvé cette bouteille où il est inscrit, il y a inscrit en arabe 28 personnes, nous n'avons plus d'essence, nous allons couler, au secours. Voilà ce qui est indiqué. Je me suis dit moi je trouve cette bouteille, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire de ça ? Voilà, je sais pas.
Je donne la parole à Alessandra de Migros Europe, qui le regard de Martine Abad s'est tourné.
Dans ce cas-là, disons que le moyen de communication est un peu particulier. Il est difficile d'évaluer quand la bouteille a été mise dans l'eau. Et donc, du coup, s'il y a effectivement quelque chose qui
peut
être...
Il y a une date, 2013. Il y a juste l'année, 2013.
2013. Franchement, je n'ai pas beaucoup d'expérience de qu'est-ce qu'on peut faire avec des messages retrouvés comme ça. Bien évidemment, prévenir les gardes-côtes et les autorités, mais on sait bien que sans une localisation du bateau, il est particulièrement compliqué de les identifier.
En fait, moi, c'est plus cette bouteille est tombée dans mes mains. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce message soit diffusé à quelles associations et pour que ça devienne quelque chose, en fait, voilà, que
Après, ça serait intéressant justement de mettre en relation cette liste de noms que tu trouves avec les listes que ont constituées les associations. Voilà. Tu parlais du forum tunisien. Voilà, ils ont un nom à rallonge que je vais écorcher. FTDTES. Ils ont constitué des listes. Donc, à un moment donné, c'est quand même intéressant d'essayer de croiser justement ces listes, puisque d'un côté, on a des gens qui cherchent des familles qui cherchent leurs enfants, et de l'autre, on a des enfants qui appellent à l'aide et qui laissent leur nom. Quoi.
Oui, effectivement, s'agissant de Pantelleria, là, c'était la question m'a un peu surprise. C'est sur la route, effectivement, entre la Tunisie et Lampedusa. Une des premières choses pourrait être de comparer ces noms-là, de voir peut-être aussi si la personne qui t'a aidé pour la traduction arrive à identifier de quel arabe il s'agit pour voir si effectivement c'est de l'arabe tunisien, ce qui pourrait aller dans cette direction-là, et peut-être envoyer un scan aussi un de scan. Ce message au forum tunisien qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à d'autres associations au niveau tunisien, qui pourrait avoir des listes effectivement de disparus.
Merci Alessandra et Martine pour ce témoignage. On va continuer et trouver moyen pour que vous puissiez mettre en relation vos informations et continuer cet échange. L'heure a déjà tourné, l'émission est presque finie. On s'excuse pour les problèmes techniques et je voudrais remercier chacun et finir l'émission en écoutant un extrait à la fois qui continue l'interview de Juliette Gripand au début et de votre film Les Messagers, qu'on va pouvoir voir bientôt dans les festivals et en salle, et on s'en réjouit de bientôt le découvrir en entier. Donc je voulais vous remercier beaucoup tous d'être venus ce soir, donc Alessandra Capodanno de Migre Europe, Olivier Favier qui anime le blog Dormir à Jamais, les documentaristes Laetitia Toura et Hélène Cruzilla, Martine Abbat, journaliste, et FPP, la radio qui nous permet d'être ici, et Stefano Lodirio à la technique ce soir. On écoute cet extrait et je vous rappelle qu'on peut réécouter l'émission de ce soir jeudi matin à 8h sur cette même antenne 106.3 FM et sur le blog de Envie d'Italie et notre page Facebook. L'extrait est à suivre. Bonne écoute. Merci à tous.
La première chose que j'ai vu en arrivant donc en Sicile, c'était les pêcheurs, et la première question qui s'est posée a été celle justement cruciale des secours en mer, puisque on a rencontré un armateur de Mazara del Vallo qui, quand je l'ai appelé, a tout de suite dit « Ah oui, on a dit que des bateaux de pêche s'étaient approchés des rescapés et avaient fait demi-tour, et toute la communauté de la pêche, en fait, était très choquée. » Et c'est vrai que ils sont en première ligne, vraiment, que ce soit à Mazara, parce que de Mazara partent les gros chalutiers qui vont pêcher dans la région et qui reviennent, qui déposent le fruit de leur pêche à Lampedusa, et évidemment les pêcheurs plus petits qui sont à Lampedusa même, sont vraiment la première population confrontée à ces drames, puisqu'ils sont, ils voient les bateaux et ils sont pris entre deux feux, ils sont pris entre leur devoir de marin de secourir les gens, l'obligation aussi qui leur est faite à partir du moment où il y a un danger de mort, enfin il y a quelqu'un qui est soit un naufrage, soit quelqu'un à l'eau, ils ont l'obligation légale d'intervenir, ils ont évidemment cette obligation morale, et ça ils sont les premiers en tant que marins à la revendiquer. Et par ailleurs, ils sont pénalisés par la fameuse loi sur l'immigration, la loi Bossi-Fini, parce que si, en revanche, ils croisent un bateau sur lequel il n'y a pas de danger vital apparent, s'ils portent secours, alors là, ils sont accusés de complicité d'immigration clandestine, et ils ont les pires ennuis avec la justice. Il y a un pêcheur qui le disait très clairement dans ces termes, il disait « maintenant, on est plus des secouristes que des pêcheurs, parce que ça leur arrive très fréquemment de croiser des embarcations ». Et ou alors, par exemple, ils racontent des trucs terribles. Ils racontent comme ils prennent leur filet dans les épaves, puisqu'ils pêchent avec des chalutiers qui pêchent au filet qui je sais comment ça s'appelle, mais qui raclent le sol, quoi, qui sont au fond. Et ils prennent leur filet, ils déchirent leur filet dans les épaves. Ils ramassent des morceaux d'épave. Ils ramassent même parfois des choses beaucoup plus sinistres. Il y en a un qui racontait comment un collègue avait ramené une fois un squelette. Et donc, il l'avait ramené à terre pour pour l'enterrer, quoi. Et il a eu les pires ennuis avec la justice, la magistrature. S'ils font le moindre pas dans ce sens, leur bateau est arrêté, est immobilisé plusieurs jours. Ils sont pas indemnisés. Pareil, s'ils portent secours, ils sont pas non plus indemnisés. Enfin voilà, donc ils se retrouvent dans une situation très délicate. Et c'est vrai qu'il y a des zones. Ils connaissent bien évidemment toute la zone. Il y a des zones où ils vont plus pêcher parce qu'ils savent qu'il y a eu des naufrages. Ils ont pris leur filet une fois, deux fois. Donc ils les évitent.
J'ai trouvé des gens qui sont morts. Tu vois, au mois d'août, on travaille là-bas. On a trouvé plein de gens. Je crois qu'il y a déjà une guerre ici. Il y a déjà une guerre, tu vois, de 20, 30, 50 personnes qui sont sur l'eau, tu vois. Vraiment,
c'est pas un autre poisson, c'est un autre trémas. Ça, c'est pas un os de poisson qui ont. C'est un autre trémas comme nous. Vous m'agirez, vous trouvez un os. En plus, qui savent, en plus, qu'on en vendit ici, qu'on voit les gens qui sont partis, qui ne sont pas arrivés ni là-bas ni ici, qui sont où?
À la mer, au fond de mer.
Ils sont où tous ces gens-là? Et qu'on vous imagine qu'on trouve 20 ou 200 personnes, comme on dit, au bord de la mer. Ça qu'on le voit. Et les autres, on ne le voit pas.
Envie d'Italie.
En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement.
D'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare.
Premier lundi du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel sur 6.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendoli.